Bonsoir, entrons ensemble dans un tendu débat consacré ce soir au désir au cinéma. À l'ordre du jour ce soir, comment filmer le désir au cinéma? Depuis les déclarations récentes de Judith Godrèche sur une certaine tendance du cinéma d'auteur français, se demandant si ce même cinéma n'a pas favorisé la mainmise des metteurs en scène sur leurs comédiennes et sur leurs comédiens depuis des années, le débat porte aussi sur la façon de maintenir le désir sur la pellicule, bien qu'il n'y ait plus de pellicule, sans permettre la domination sur les plateaux de tournage. Car le désir est matière à cinéma. Comment filmer sans manipuler? Comment filmer sans objectiver ces actrices et ces acteurs? Pour traiter de ce thème, deux réalisatrices, Lucie Borloteau et Leïla Bouzig, dont deux films usent du terme « désir » dans leur titre, « À mon seul désir pour l'une » et « Une histoire d'amour et de désir pour l'autre ». Elles vont tenter de définir ce que le female gaze, le regard féminin, change à la représentation du désir au cinéma. Et puis, évidemment, à la fin de cette émission, comme une fois par mois dans cette émission, eh bien, nous allons accueillir la rubrique de la médiatrice de Radio France autour des rapports entre Radio France et ses auditeurs et auditrices.
Le stress du moindre mot, la tension du moindre geste. Moindre geste. Pension et sourire béat. En crevé. Plus rien qu'un être idiot qui rabâche des idioties. Plus rien qu'une peau qui appelle ta poésie. Tendu, nous sommes vers autre chose. Tension et tension. Tension et rien. Tout est bêtise tant qu'on ne s'embrassera pas. Tout est idiot tant qu'on ne se touchera pas. Rien. Mais des moments de grâce aussi. Le temps passé avec toi. Un échange qui me suffit, qui te suffit, qui nous suffit.
Plus suffira pas, regard évité, regard croisé, croisé, baissé de l'impatience. Je peux plus mentir, devrais rien te dire, envie de toi, envie de toi, envie de toi, mais je fuirai envie de toi et je fuis, et je fuis, et je fuis, j'attends. Si tu me rattrapes et je fuirai, je fuis, mais tu ne me rattrapes pas, tu ne me rattrapes pas, tu ne me rattrapes pas, Farah, Farah, Farah.
Envie de toi, mais je fuirai, envie de toi, et je fuis, et je fuis, et je fuis, et j'attends que tu me rattrapes, et je fuirai, et je fuis, mais tu ne me rattrapes pas, tu ne me rattrapes pas, tu ne me rattrapes pas. Farah, Farah, Farah.
Avec nous ce soir, Lucie Borloteau, bonsoir. Vous êtes réalisatrice et scénariste et vous avez notamment réalisé Fidelio, l'Odyssée d'Alice et À mon seul désir, effectivement. C'était en 2023 pour ce dernier. Et avec nous également, Leïla Bouzid, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisatrice et scénariste. Votre dernier film, Une histoire d'amour et de désir, est sorti en salle en 2021. Et vous avez également réalisé À peine j'ouvre les yeux en 2015. Et vous vous apprêtez à tourner votre prochain film. On vient d'entendre un extrait justement de Une histoire d'amour et de désir qui s'ouvre sur un corps masculin et non pas un corps féminin. Et sur un corps masculin sous la douche, avec cette idée effectivement que nous avons au cœur de ce rapport de désir et d'amour un homme qui n'a pas encore fait l'amour et qui, d'une certaine manière, est paralysé par cette question de savoir comment il va falloir faire.
Oui, tout à fait. Et le projet d'Une histoire d'amour et de désir, entre autres, était le portrait de ce jeune homme à ce moment précis de préliminaire ou de long préliminaire que serait le film et de l'accompagner dans ses doutes, dans ses peurs, dans ses fragilités. De par son intériorité, mais de par aussi ce que dégage son corps, le désir retenu de tout ce qu'il essaye, de tout ce qui lui fait peur et qui est de l'ordre, en effet, du désir en permanence. Et il était question, dans ce projet, en priorité, de érotiser le corps masculin et d'avoir énormément de sensualité qui teinte l'ensemble du film.
Avec effectivement ce corps masculin au cœur, mais comment fait-on justement d'une certaine manière pour maintenir ce désir quand on est une réalisatrice et pour ne pas justement dominer et le corps des actrices et le corps des acteurs comme souvent on accuse les réalisateurs de l'avoir fait jusqu'à maintenant?
Moi, je suis dans une position très, très égalitaire avec mes acteurs. Je ne suis pas du tout dans une position de pouvoir. Ça m'intéresse pas, en fait, cette position de domination ou de pouvoir. Donc, c'est un partage très fort que j'ai avec eux. Je suis extrêmement complice et aussi, je suis très claire sur le projet. C'est-à-dire que la première fois où j'ai rencontré Sami Outalbali, qui incarne Ahmed dans le film et qui est vraiment ce personnage principal dont on fait le portrait et dont je filme le corps... Dès que je l'ai rencontré, je lui ai raconté l'histoire du film et je lui ai dit que c'était une histoire de corps et qu'on allait travailler sur le corps et qu'est-ce que je cherchais par ce travail et que je voulais filmer un corps masculin qui est au départ plutôt fermé et qui va s'ouvrir mais qui porte dès le début en lui sa sensualité et cette sensualité qu'on entend même dans la voix, je pense, de Sami. Ahmed, et donc c'est un travail de dialogue et d'être très très clair sur ce qu'on cherche, pourquoi on le cherche, qu'est-ce qu'on veut raconter par là, et demander bien sûr aux acteurs un échange et de savoir est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça, est-ce qu'ils sont pas à l'aise avec ça, qu'est-ce qu'ils ont envie de donner, qu'est-ce qu'ils sont pas prêts à donner, et de travailler avec des acteurs, si c'est ça qu'on cherche, qui se sentent très très à l'aise avec ces questions-là. Et ça, c'est pas forcément tout le monde. Mais en l'occurrence, mes deux acteurs étaient extrêmement à l'aise avec cette sensualité qu'ils dégagent, qu'ils savent dégager, qu'ils maîtrisent et que ça les intéressait qu'on filme ça.
Lucie Borloteau, vous avez deux films, disons... Ils ne sont pas antithétiques, mais ils sont très différents. Celui de 2014, tourné en 2013, s'appelle Fidelio, l'Odyssée d'Alice. Et puis, À mon seul désir est sorti il y a un an à peine. Et nous avions d'ailleurs reçu à cette occasion Louise Chevillotte, qui nous en a parlé dans une discussion autour de cette question, justement, des nouveaux rapports que l'on pourrait imaginer au cinéma entre metteurs en scène, metteuses en scène, acteurs et actrices. On voit bien la différence d'une certaine manière en 10 ans, l'évolution. Vous avez fait Fidelio avant ce qu'on appelle le mouvement MeToo, vous avez fait À mon seul désir après, vous êtes la même réalisatrice, mais vous avez peut-être une vision différente de la manière dont vous filmez les corps, dont vous travaillez sur cette question du désir au cinéma. En tout cas, ce ne sont pas exactement les mêmes projets.
Non. Ben non, après, je pense que c'est les films qui sont différents.
Bien sûr, c'est normal.
Je suis pas sûre que ce soit lié uniquement à MeToo. C'est-à-dire que dans Fidelio, en fait, c'est une femme désirante. Et le projet, c'était un peu de montrer des scènes d'amour comme des scènes normales qui font partie de la vie. Parce que pour moi, le sexe, c'est une chose qui fait partie de la vie et qui est pas forcément qui doit pas forcément être mise en scène de manière particulièrement dingo. Moi, j'avais la sensation comme spectatrice que les scènes de sexe, les scènes d'amour entre adultes, quand c'est pas une agression, hein, vous voyez, quand c'est une scène dans une histoire, et parfois elles étaient complètement dingues, alors que là, moi, j'avais envie qu'elles fassent partie du quotidien, voilà. Et c'était un peu le projet de Fidelio. Alors que À mon seul désir, qui raconte la vie d'une bande de stripteaseuses et de deux en particulier, quelque part, c'était un peu un pied de nez de se dire, bah voilà, dans un endroit où on pense qu'il va y avoir beaucoup de sexe, beaucoup de regards lubriques, etc., on va découvrir des gens dans leur humanité, que ce soit les danseuses ou les clients. Alors, on est plutôt du point de vue des danseuses. On va découvrir ce que c'est que de fabriquer le désir pour des spectateurs, puisqu'on est avec les danseuses au cœur de ce que c'est.
C'est une sorte de mise en abîme, puisqu'effectivement, nous sommes spectateurs d'un spectacle qui montre aussi le regard des spectateurs sur les
stripteaseuses. Exactement. On voit beaucoup les spectateurs regarder les filles, par exemple, puisqu'on est du point de vue des filles. Et qu'effectivement, comme vous le disiez très justement, elles sont pas du tout objectifiées. Et pour le coup, le film bascule dans une histoire sentimentale. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas un film avec tant qui est une histoire d'amour. Donc il y a aussi des scènes d'amour, mais finalement, il y en a assez peu. Quelque part, c'est un film plus pudique sur sur l'acte en lui-même, ce qui est un peu un paradoxe, mais c'est ça que je trouvais marrant.
Est-ce que c'est intéressant, Leïla Bouzid, de reprendre toute l'histoire du cinéma, de reprendre toute l'histoire de ce qu'on a vu, des scènes de sexe au cinéma, des scènes de désir au cinéma, pour pouvoir s'en abstraire ou, d'une certaine manière, les reprendre à son compte quand on est une réalisatrice comme vous, Leïla Bouzid? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, est-ce que, quand vous avez commencé à filmer cette histoire d'amour et de désir avec ces acteurs et ces actrices, avec effectivement une progression très lente justement sur la question des scènes de sexe au cinéma, puisque c'est le terme, pourrait-on dire, de ce film, eh bien, est-ce que vous aviez en tête justement tous les manières dont on a filmé le désir et le sexe au cinéma, ou est-ce que vous en étiez retiré d'une certaine manière?
Alors moi, j'ai pas la connaissance suffisante pour pouvoir me positionner.
Je vous demande pas toutes les scènes de sexe que vous auriez pu voir ou de désir que vous avez pu voir au cinéma, mais d'une certaine manière, vous avez, j'imagine, comme tout le monde, vu des films qui traitent de cette question-là.
Oui, c'est vrai que je me suis positionnée. Et le désir même du film partait du manque d'une représentation. C'est-à-dire que j'avais la sensation que on représentait très rarement le corps masculin désirant, désiré, en général, même dans la peinture. C'est-à-dire que j'avais la sensation que, même en littérature, en fait, on raconte l'histoire de première fois, par exemple, de jeunes femmes. C'est très, très raconté, mais j'avais l'impression qu'il y avait un non-lieu, en fait, sur la première fois masculine. Et un non-lieu aussi sur, érotiser le corps masculin. Et donc, c'est vrai que quand j'ai fait le film, j'avais conscience que j'avais ce regard féminin sur un corps d'homme et que il y avait peut-être un manque, en tout cas un regard que souvent on n'y met pas justement de l'érotisme. Et j'avais envie de travailler là-dessus. Après, il y a quand même les films de Jane Campion, par exemple La leçon de piano, qui est où le corps masculin est extrêmement sensuel également. Donc, en tout cas, c'était l'endroit où j'avais envie d'aller, et avec des manques, oui, dans des manières de représenter, sur être sur l'homme, voir qu'est-ce qui se joue chez lui, est-ce qu'il se passe quelque chose. Voilà, j'avais envie de le regarder réellement.
Est-ce que, justement, cette question de l'érotisation du corps masculin dit quelque chose de l'ambiguïté nécessaire, justement, à cette question du désir, puisque, effectivement, souvent, c'est plutôt le corps féminin qui est regardé ou montré au cinéma?
Ben, en tout cas, une absence, c'est-à-dire une absence de problématique sur l'homme, justement, peut-être parce que les jeunes femmes ou les femmes ou le désir féminin était beaucoup regardé par les hommes. L'homme lui-même n'existe pas, enfin ne n'existe pas en tant que aussi être complexe, dans un désir qui peut parfois échapper, qui peut être interrogé, qui peut être remis en question, qui peut être fragile. Il est comme ça, omniscient et donc un peu pauvre finalement dans ses représentations.
Donc il s'agit pour vous d'enrichir justement ces visions du désir par d'autres manières, d'une certaine manière.
Oui, je pense qu'on peut regarder aussi en tant que réalisatrice, en tout cas se permettre de raconter des histoires masculines, pas forcément de désir, et de raconter aussi des mystères, regarder le masculin en s'interrogeant sur des choses qui nous échappent, parce que le mystère est souvent l'apanage des femmes, comme la fragilité, le doute, et je trouve que c'est un peu réducteur.
On écoute tout de suite un extrait de votre film, Lucie Borloteau, À mon seul désir.
Je voudrais qu'on soit ensemble. Il faut que t'arrêtes de faire la pute. Quoi, il faut? C'est quoi le problème? Attends, je viens de réunir presque un an de loyer en deux mois, tu réalises? Je peux pas arrêter, j'ai pas envie d'arrêter. Je peux pas quitter Benjamin si tu continues. Voilà, de faire ta coincée, ça ne va pas du tout. Eh ben si, je suis coincée en fait. Et que tu comprennes pas que ça va te marquer à vie. Tu penses que je suis une fille perdue, c'est ça? Que ça va polluer tes relations à venir avec toutes les personnes que t'aimeras, et que vendre son corps, c'est le dernier degré de soumission, ça me rend dingue.
Voilà, dialogue entre deux stripteaseuses dans votre film À mon seul désir, d'une certaine manière, et l'une d'entre elles pratique la prostitution et l'autre la critique pour cette pratique, Lucie Borloteau. Une des questions, c'est de savoir si sur ce type de film, pourrait-on dire, il y a la dimension de ce qu'on appelle maintenant les coordonnateurs ou coordonnatrices d'intimité, c'est-à-dire ce rapport de domination ou de non-domination, justement, du réalisateur, de la réalisatrice sur ses acteurs et sur ses actrices, et la nécessité, justement, de toujours, comme le disait tout à l'heure, Leïla Bouzid, discuter avec elle, avec eux. Comment pratique-t-on quand on a, justement, cette question du désir à mettre en scène?
Ben, moi, je rejoins déjà complètement Leïla sur la manière dont elle parlait du travail avec les actrices et les acteurs. C'est-à-dire que je pense qu'il faut choisir, quand on a un film qui demande de la nudité ou de, voilà, un peu d'être à l'aise, voilà, dans ces situations, il faut prendre des gens qui sont déjà réellement à l'aise. Enfin, il faut aussi jouer carte sur table. Il faut écrire ces séquences comme on écrit n'importe quelle séquence, avec du détail, etc. Et bien sûr, il faut les préparer. C'est-à-dire que ce métier, ce nouveau métier qui commence à arriver en France, en fait, j'ai l'impression, moi, quand j'écoute la parole des coordinatrices d'intimité ou des gens qui travaillent avec, que c'est des choses qu'on avait déjà un petit peu bricolées à notre façon. Hein, c'est-à-dire, c'est des lectures avec une tierce personne, mais avec les acteurs, par exemple, séparés pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Enfin, c'est quoi les limites exactes sur À mon seul désir, par exemple, c'est une résidence avec toutes les filles qui jouent dans la boîte de striptease, parce qu'il y avait aussi la question de comment elles vont être vues dans le lieu de travail, qu'est-ce qu'on va voir, qui va accepter de montrer quoi, etc. Et après, c'est un travail, évidemment, de répétition qui s'apparente un peu à une chorégraphie, sans compter évidemment qu'on a toujours fait extrêmement attention à vider les plateaux pour ce genre de scène. Moi, je sais qu'aussi, par exemple, je ne m'acharne pas sur ce genre de scène. Je fais pas 50 prises. Parce qu'en fait, c'est un peu comme des choses un peu délicates. Personne n'est quand même non plus super à l'aise de faire ça. Donc, dès qu'on a ce qui est bien pour la scène, on s'acharne pas, par exemple.
Voilà. Et on après, a entendu, effectivement, Judith Godrech disant qu'il y avait eu 40 et quelques scènes pour certains des films dans lesquels elle avait tourné, où elle s'était fait manipuler, toucher par le metteur
un
en scène,
de prises,
effectivement.
Voilà. Tout à fait. Voilà. Et ça, bon, ça me semble fou, par exemple. Et c'est quelque chose que j'ai, par ailleurs, pratiqué de manière instinctive parce que j'avais moi-même un peu voulu être actrice. Et donc, j'ai fait de la figuration. Comme j'étais pas pudique, j'ai été souvent nue sur des plateaux. Et donc, je pense que c'est quelque part, je me mets vraiment à la place des gens, en fait. Mmh. C'est-à-dire que je sais ce que c'est d'être la seule personne nue, qu'on fait pas. Au début, on fait attention, puis après, au bout d'un moment, on n'y fait plus attention. Donc, voilà, moi, je sais que je fais vraiment très attention. Mais je pense que ce que disait Leïla sur le rapport égalitaire avec les acteurs, voilà, c'est déjà fondamental. Mmh. Pour nous, en tout cas, pour nous deux, c'est sûr. Et quelque part, pour moi, ça se duplique dans les rapports amoureux que j'ai envie de mettre en scène. C'est-à-dire que pour moi, la scène que vous venez de diffuser, au-delà de son contenu politique, c'est deux personnes qui s'aiment et qui arrivent à avoir une discussion, en fait, à cœur ouvert, sans vouloir faire du mal à l'autre, en fait. C'est-à-dire que et pourtant, elles sont pas d'accord, elles vivent des tas de trucs intéressants.
Et oui, bien sûr.
Mais la question n'est pas de savoir qui va dominer l'autre, en fait. La question est de s'aimer et de voir si on va y arriver à s'aimer. Mais ça, pour moi, si j'ai un manque aussi, finalement, de représentation comme ça, dans les scénarios, quoi, tout simplement. Même si je me suis construite sur l'histoire du cinéma et que j'aime les films d'Hitchcock où il y a un gros problème entre les hommes et les femmes, vous voyez.
Oui,
je les aime beaucoup et ils m'ont construite, donc c'est pas forcément un problème. On peut essayer
Leïla Bouzid, justement, sur ces questions. Justement, ce que vient de dire Lucie Barlotto.
Oui, en fait, y a un métier donc, qui est ce coach d'intimité dont on parle beaucoup, beaucoup ces dernières années.
Vous n'en avez pas utilisé vous-même, et
non,
Lucie Barlotto non plus.
Moi, j'ai tourné en 2019, et le film a attendu après la fin du Covid, etc. Mais c'est pas qu'on n'y a pas fait appel, c'est que ça n'était même pas dans l'air, c'est-à-dire que c'est même pas une idée qui est venu même de très loin, qui a été évoqué à aucun moment. C'est-à-dire,
ça veut dire que ça va très vite, d'une certaine manière.
Oui, ça n'existait même pas dans la représentation de la possibilité qu'il puisse y avoir. Mais c'est vrai que instinctivement, en tout cas, dans la manière dont moi je travaille, et j'ai l'impression Lucie également, c'est vrai que j'ai discuté avec l'un, puis avec l'autre, j'ai expliqué ce que je voulais, j'ai expliqué comment on allait faire, on a demandé qu'est-ce qui était la limite, qu'est-ce qui n'était pas la limite, quel temps ça devait prendre, bien sûr, il y a une équipe réduite, etc. Moi, j'étais face à des acteurs, on a fait une prise et puis on a refait une autre dans une une autre type de prise, mais vraiment c'était deux prises max. Et d'ailleurs, je refaisais sur les scènes de jeu, je faisais tellement de prises, enfin une dizaine de prises sur les scènes de jeu, pas ces scènes-là, que les acteurs d'un coup se sentaient hyper libres dans cette scène, puisqu'on n'en a fait qu'une. Et que voilà, c'était comme ça. Et mes acteurs, un acteur parfois peut être beaucoup plus mal à l'aise, par exemple dans une scène où il doit aborder des choses, des rapports, par exemple père-fils, ou des relations intimes. Ou parfois il y a des scènes où c'est de la parole, c'est que du dialogue. Et l'acteur qui est quand même dans un don de soi, un don de son émotion et de son corps peut avoir parfois plus d'impudeur ou de sensation d'impudeur sur une scène qui est autre, que vous allez voir comme une scène banale, mais qui pour lui ne l'est pas, et être beaucoup plus à l'aise sur une scène charnelle, d'intimité. En fait. Donc en fait, c'est un travail... Pour moi, le travail de direction d'acteur est un travail qui est sur l'ensemble du film, sur l'ensemble des choses. Et on peut avoir besoin de ramener de la délicatesse ou de l'attention extrême à une scène qui n'est pas forcément une scène de nudité ou d'amour, mais qui est une scène de quelque chose qui touche chez l'acteur à un endroit délicat. Donc la présence, elle est là, permanente.
Mais pourtant, ce qui est intéressant dans vos deux films, en l'occurrence, et on pourrait parler aussi de Fidelio, mais dans à la fois « À mon seul désir » de Lucie Borlotto et « Une histoire d'amour et de désir » et de vous, Léla Bouzid, c'est la question, vous mettez au cœur la question du désir. C'est-à-dire que vous, c'est la littérature érotique du XIIe siècle, c'est un jeune étudiant qui va à la Sorbonne et qui, venant de sa banlieue et de son milieu relativement modeste, se dit « je peux faire m'intéresser à la littérature ». Et en particulier, et on lui impose d'une certaine manière, là c'est l'imposition de la professeure, cette question de la littérature arabe médiévale avec toute la question du désir au milieu. Et puis de l'autre côté, effectivement, entre Lucie Borlotto, pour Lucie Borlotto, c'est de mettre au cœur de la discussion la question du spectacle érotique, pourrait-on dire, dans un cabaret de striptease.
Oui, parce que moi, je rejoins Lucie, c'est que le désir, il fait partie de la vie et c'est fondamental, je veux dire.
Donc il ne faut pas l'éliminer du cinéma.
Sans désir, c'est tellement triste. Enfin, je ne sais pas. Donc pour moi, c'est... Et le cinéma est fait de désir, vraiment. C'est-à-dire, et je rejoins aussi Lucie sur le fait qu'on ne peut pas tout jeter comme ça à la poubelle. Il y a des choses, il y a des portraits sublimes d'actrices qui ont été faits. Je ne parle pas du tout de ceux qui sont problématiques. Mais il y a des beaux portraits de femmes qui ont été faits et qui sont magnifiques dans des films. Mais voilà, le désir est une question qui est quand même fondamentalement liée au cinéma. Quand on filme quelqu'un, il faut quand même qu'on ait envie de le filmer, c'est-à-dire qu'on ait envie de le rendre vivant,
voire de le sublimer,
bien sûr,
ou de la sublimer.
La sublimation, elle fait partie, donc c'est des choses, et c'est pour ça que c'est très important d'être très attentif au type de rapport qu'on a et à pourquoi et comment et où est-ce qu'on va, mais c'est la matière même pour moi de ce qu'on filme, le désir.
Lucie Borlotto.
Oui, je disais aussi qu'effectivement, on a envie de sublimer. Les acteurs, ils ont envie d'être sublimés, non pas pour être les plus beaux, les plus belles, mais aussi pour être des
pourquoi
personnages.
Pas, et pourquoi
pour
pas
s'échapper.
Pourquoi pas
bah, dans Mon seul désir, c'était quand même l'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les actrices, sans exception, même les petits rôles, avaient quand même peur de jouer des stripteaseuses parce que, on franchit un peu en plus un tabou, quoi, voilà, d'aller. Jouer ce genre de personnage et en même temps c'était vraiment un plaisir en fait parce que elles sont nues mais elles sont habillées par la lumière, par quelques lingeries, par la drôlerie des scènes aussi, enfin il n'y a pas du tout de malaise finalement.
Oui, parce qu'il y a une dimension très intéressante qui est quand même la dimension à la fois de l'humour, de la distance que l'on peut mettre justement par rapport à ces corps nus effectivement, et qui est une dimension qui permet de désamorcer d'une certaine manière, Lucie Borlotto aussi, ce
regard. Le côté graveleux, quoi.
Voilà, ce côté graveleux.
Tout à fait. Moi, j'avais un modèle en tête qui était un modèle qui vient du réel, hein, puisque j'avais découvert un théâtre érotique où il y avait ce genre de show de manière sporadique. Nous, on en a évidemment rajouté un maximum. Mais c'est l'idée que tout d'un coup, il y a une forme de prise de pouvoir de ces danseuses, puisqu'elles font ce qu'elles veulent. Et déjà, elles ont le pouvoir sur les hommes. Ça, c'est ce que raconte magnifiquement Louise Chevillotte et Zita Enro quand elles parlent de leur travail sur le film. Mais il y a aussi une forme d'humour. Et moi, j'avais envie de remettre de l'humour et de la joie à l'endroit où on est très, très sérieux avec le sexe. Alors, ça n'empêche pas le film de montrer des hommes qui peuvent être certains des agresseurs ou de raconter une histoire de viol, par exemple. Mais il y a aussi des personnages masculins que je trouve très beaux, qui sont aussi, comme le personnage principal du film de Leïla, des hommes extrêmement sensibles. C'est-à-dire que quand on décide de mettre un coup dans le cinéma en mettant en scène des femmes un peu puissantes ou un peu différentes parce que par exemple elles sont ok pour faire de la prostitution et c'est un choix, il faut aussi faire extrêmement attention aux personnages masculins et quelque part c'est complémentaire
comme d'ailleurs dans le film de 2014 Fidelio, l'Odyssée d'Alice, votre héroïne, donc Ariane Labed, est effectivement puissante, puisque c'est elle qui décide d'une certaine manière, Lucie Borloteau, de ses relations, alors que généralement ce qu'on voit au cinéma, ce sont des hommes qui décident des relations qu'ils vont établir avec les femmes.
Oui, et puis dans Fidelio tout est renversé, puisqu'elle est marin, donc elle fait comme ce qu'on imagine, comme toute la mythologie du marin, elle a un homme dans chaque port, etc. Et moi j'adore le personnage de son amoureux, finalement, qui est un homme qui est qui peut être touché par son infidélité, mais qui est aussi capable de l'aimer malgré tout, mais sans en faire un mec faible, en fait. C'est, pour moi, c'est une figure puissante. C'est remettre de la complexité, de la subtilité sur des archétypes qui ont pu effectivement faire du mal dans le cinéma, y compris dans le cinéma populaire. Bon, voilà, je sais pas si existe encore le cinéma populaire, mais en tout cas, quand les gens allaient au cinéma, quand on lit les livres d'Orhan Pamuk, par exemple, magnifique, là, à Istanbul, où les gens se mettent à imiter les acteurs américains dans leur manière d'embrasser, dans leur manière de fumer, etc., on peut se dire à quel point ça a pu faire du dégât. On peut même se le dire nous-mêmes en regardant nos vies. Mais justement, je trouve que c'est passionnant, en fait, d'imaginer qu'on peut faire maintenant tout un tas de films en s'affranchissant de ça. On n'est pas les seuls à le faire.
Bien sûr, Leïla Bouzid, est-ce qu'on apprend de film en film d'une certaine manière? Est-ce que d'une certaine manière, après avoir fait le premier film à peine j'ouvre les yeux en 2015, puis Une histoire d'amour et de désir en 2021, enfin tourné en 2019, paru en 2021, eh bien vous avez appris justement sur cette question de comment on a un rapport plus égalitaire avec en tant que réalisatrice avec les acteurs et les actrices qui sont sur le plateau, comment on peut évoluer, et vous êtes en train de préparer un nouveau film. Est-ce que justement ce nouveau film, il va être différent parce que vous avez appris entre les deux et parce que le bruit ambiant que nous entendons tous et toutes change votre façon de pratiquer?
Bon, d'un film à l'autre, j'ai l'impression que les films se nourrissent. Je ne sais pas si on grandit, mais en tout cas, un film nous emmène à un autre, parfois pour aller dans une autre direction, ou parfois quelque chose qu'on a abordé de manière très furtive dans un film nous interpelle très fort et on va aller la travailler en entier dans celui d'après. Les films font un chemin comme ça, en tout cas dans ma manière de faire et la manière plutôt française, en tout cas européenne, comme ça, de cinéma d'auteur, puisqu'on écrit nos films souvent. Et donc c'est vrai que les films résonnent les uns avec les autres. Je ne sais pas si on grandit. Je sais, oui, que pour le prochain, je tourne dans un mois, donc le précédent, il était il y a 4 ans et demi, 5 ans, donc quand même, on se dit toujours qu'on a oublié et qu'on ne sait plus rien et qu'on repart de zéro. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on apprend qui sont des choses qui se facilitent, mais il y a des questions qui se posent, et notamment aujourd'hui, en effet, sur filmer les corps, qui est presque... La question est tellement présente dans l'actualité que c'est vrai que Par exemple, les discussions que j'ai pu avoir sur une histoire d'amour et de désir, là, c'est moins la thématique, mais quand même, ça, c'est abordé par moments dans le film. Je vais poser la question aux acteurs avec une insistance beaucoup plus grande, c'est-à-dire vraiment, est-ce que vous voulez un coach ? Vraiment, même si l'idée vous traverse l'esprit, on peut le faire. Quel est, voilà, de vraiment... Et comme j'ai toujours ce rapport égalitaire et que, bon, en l'occurrence, les actrices sont très à l'aise et que moi, je dis ce que je cherche, ce que je veux filmer, ce que je ne veux pas filmer. Et notamment, je n'ai pas forcément envie de filmer la nudité. Mmh. Parfois, la scène oblige, entre guillemets, on a vite fait de la nudité dans la scène finale d'une histoire d'amour et de désir, mais on ne pouvait pas l'éviter, entre guillemets, mais c'est pas ce que je, voilà, mais c'est pas ce que je cherchais. Enfin, ça dépend quoi, enfin, ça dépend quel corps. Mais je disais très clairement, voilà, pour Ahmed, on va le voir de dos, nu, c'est le corps masculin qui m'intéresse, etc. Et donc, c'est des questions qui sont beaucoup plus vives aujourd'hui et qu'on va aborder avec la résonance de l'époque de manière aussi. Plus, voilà, ne fais rien avec lequel tu n'es pas à l'aise, dis-moi tout, enfin voilà, et pas que à moi, et aussi, il y a plus d'interlocuteurs sur la question, je pense.
Merci en tous les cas à toutes les deux, Leïla Bouzid, pour votre histoire d'amour et de désir que je n'avais pas vue et que j'ai vue récemment, et c'est un formidable film, il faut absolument le voir sur toutes les plateformes qui sont disponibles, et merci à vous, Lucie Borloteau, on avait déjà parlé ici de À mon seul désir, mais on pourra effectivement avoir l'intérêt aussi sur les grandes plateformes que l'on trouve sur le net, de voir Fidelio, l'Odyssée d'Alice, et voir la différence entre les deux traitements des corps, justement, dans vos deux films. Et bon tournage à vous, bonne préparation, Leïla Bouzid, pour votre prochain film. Vous le savez, une fois par mois, le jeudi, nous avons rendez-vous avec la médiatrice des antennes de Radio France, Emmanuelle Davier. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir Florian Delorme.
Bonsoir Emmanuel Davier.
Des auditeurs souhaiteraient savoir quelles sont vos propositions éditoriales pour la couverture des élections européennes.
Alors Emmanuel, dans la perspective des élections européennes du mois de juin, France Culture a lancé dès le mois de janvier une proposition éditoriale assez large, à la fois dans le temps mais aussi dans la diversité des rendez-vous, des magazines qui sont diffusés à l'antenne. En fait, on a, pour tout vous dire, identifié assez vite, senti, considéré que cette élection était probablement pas exactement comme les précédentes. Je rappelle que traditionnellement, le scrutin pour les européennes, c'est pas quelque chose qui paraît très très important pour les citoyens français. En tout cas, les niveaux de participation sont souvent assez bas. Là, cette fois-ci, c'est très différent. Et d'ailleurs, les intentions, les sondages d'opinion montrent cet intérêt absolument inédit pour cette élection. Et par ailleurs, on sent bien toutes et tous que les enjeux de ce scrutin, il pouvait nous sembler peut-être assez éloigné hier. Aujourd'hui, on voit très bien que c'est de tout premier plan. On le voit évidemment avec la question de l'invasion de la Russie en Ukraine, qui polarise le paysage national comme jamais. On l'a vu par exemple au moment de la crise agricole, où là aussi on a senti qu'en réalité tout cela dépassait assez largement nos propres frontières et que tout cela s'inscrivait aussi dans un bouleversement géopolitique majeur. Je passe évidemment à la question de l'environnement qui est trop souvent oubliée mais qui une fois encore se joue au niveau de l'Union européenne. Et donc c'est pour toute cette raison qu'on s'est dit qu'il fallait construire une offre éditoriale vaste et qu'on a commencé, j'allais dire, très tôt. Je vais vous donner quand même quelques émissions, quelques rendez-vous types. On est là dans le temps du débat. Les termes du débat du vendredi avec Emmanuel Laurentin, le vendredi deviennent les termes du débat européen. Emmanuel Laurentin, qui est avec nous ce soir, il décrypte les enjeux européens dans un contexte national donné. La semaine dernière, c'était la Suède avec l'OTAN. Je crois que demain, ça sera la Slovaquie avec le terme État de droit. Je peux citer également la matinale, qui est évidemment un rendez-vous très important. Guillaume Herner invite quelques grandes figures de la vie culturelle et intellectuelle de quelques pays de l'Union européenne. On a commencé du côté de Madrid avec Javier Cercas et Rosa Montero. On avait poursuivi du côté de Rome avec cette grande figure que vous connaissez sûrement qui est Antonio Scurati, qui est un des plus éminents spécialistes du fascisme, qui avait fait paraître ce troisième tome de sa série M, qui était paru aux éditions des Arènes, qui est un immense succès en Italie. On va poursuivre le tour des capitales européennes. On sera bientôt du côté de Vilnius, à Berlin, à Bruxelles. Il y a évidemment tout ce qui est fait du côté de la rédaction avec des envoyés spéciaux sur place, avec des reportages, des éclairages. Je passe aussi sur le cours de l'histoire qui est un rendez-vous aussi extrêmement important où là, Xavier Mauduit revient sur quelques figures tutélaires de la construction de l'Union européenne, des cultures mondes, j'en passe et des meilleurs. Rendez-vous sur la page de France Culture pour tout savoir.
Alors, si l'on en juge les courriels reçus par vos auditeurs, ils ont en effet une très forte appétence pour toutes ces questions. Ils voudraient également savoir les critères qui sont pris en compte pour décider qui est invité à s'exprimer sur France Culture en tant que représentant politique.
Oui, évidemment, cette question, c'est une question qui revient souvent. D'ailleurs, on avait eu l'occasion ensemble de l'évoquer il y a quelques mois. Quand on s'intéresse à la question des critères de légitimité des personnes qui interviennent sur notre antenne, elle est évidemment très différente lorsqu'on parle de représentants politiques. De fait, pour eux, la légitimité, elle ne relève pas de leur connaissance ou de leur expertise sur tel ou tel sujet, mais du processus électif lui-même. Évidemment, dès lors que les citoyens français ont fait de ces personnes des représentants, par le truchement de processus électif, alors la parole, cette parole-là, a vocation évidemment à être recueillie sur notre antenne et proposée aux auditeurs. Et puis ensuite, vous le savez très bien, lorsque ce sont des paroles politiques, eh bien, elles sont conditionnées, en tout cas les modalités d'intervention sont conditionnées par des règles très précises que définit l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique que vous connaissez.
Alors justement, Florian Delorme, comment France Culture gère le temps de parole des personnalités politiques afin de garantir une couverture équilibrée des différents partis ?
Voilà, donc là on rentre dans la complexité, Emmanuel. Vous savez que France Culture, comme toutes les antennes de radio et télé, est soumise aux règles édictées par l'ARCOM. En l'occurrence, concernant les élections européennes, la campagne commence le 15 avril. Le principe, c'est l'accès équitable à l'antenne. En clair, ça veut dire que on doit entendre tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, ce principe d'équité, il doit s'apprécier au regard de la représentativité des partis des différents candidats. Cette représentativité, Emmanuel, c'est là que ça se complique. Elle prend en compte les résultats des dernières élections européennes, les résultats des dernières élections nationales, les sondages, la contribution des candidats au débat électoral, à plein de choses. Et puis par ailleurs, pendant la campagne, j'ajoute à ça le fait que le principe du pluralisme qui fonctionne tout le temps continue de s'appliquer. Donc en gros, en résumé, on a deux compteurs. On a un candidat qui est sur une des listes qui sera comptabilisé dans le compteur équité de la campagne. On a un politique qui est non candidat, il sera comptabilisé dans le compteur équité quand il parlera des européennes et dans le compteur pluralisme quand il parlera d'autre chose. Vous m'avez suivi ?
Absolument. Et j'invite les auditeurs qui veulent avoir toutes ces nuances et tous ces détails à se rendre sur le site de la médiatrice puisqu'on publie à ce sujet un article très explicatif.
Et puis j'ajoute un point, Emmanuel, c'est que l'ARCOM nous attend donc sur ces deux compteurs, ce qui rend la chose extrêmement compliquée, mais qu'en plus, la campagne commence le 15 avril, mais qu'en réalité, les listes pour les européennes finissent, sont clôturées le 17 mai. Donc après le début de la campagne, vous voyez un peu la complexité de la chose.
On termine avec cette question d'une auditrice. Avez-vous des comptes à rendre concernant les temps de parole et si oui, à qui ?
Évidemment, bien sûr qu'on a des comptes à rendre. Chaque mois à l'ARCOM, régulièrement, l'ARCOM nous signifie en retour l'analyse qu'elle fait des temps de parole sur notre antenne. Par exemple, il y a quelques jours, on a eu un courriel de l'ARCOM qui nous signifiait que la station avait accordé un meilleur accès au bloc de l'exécutif, à la France Insoumise et au Rassemblement National par rapport au dernier pointage, indiquant qu'il fallait que certaines forces soient un peu plus représentées. Voilà. Donc, pour résumer, je dirais que c'est évidemment extrêmement compliqué d'être au point près, au niveau demandé par l'ARCOM, mais on fait énormément d'efforts pour l'atteindre au maximum. Et les auditeurs doivent évidemment avoir en tête que pour nous, c'est une préoccupation du quotidien.
Merci Florian Delorme.
Merci Emmanuel.
Et merci à tous les deux, Emmanuel Davier et Florian Delorme. Vous pouvez retrouver évidemment ces informations, mais également contacter Emmanuel Davier sur le site de la médiatrice des antennes de Radio France. Le temps du débat a été préparé ce soir par Fanny Richer, Anouk Sevno, Candice Bergeron, Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve et réalisé par Laurence Malondin avec à la technique ce soir Anthony Thomasson.